Et on enchaîne avec la lecture promise du bouquin qui s'appelle Chronique sur corde, écrit par Éric Louis, du coup de l'asso Le Cordiste en colère. C'est un bouquin qui a été édité en septembre 2019 et qui vient tout juste, en plein confinement, d'être réimprimé pour pouvoir être réenvoyé aux gens qui le souhaitent. Alors personnellement, je trouve qu'il y a quelques longueurs des fois dans certains articles, mais en fait, pour les personnes comme moi qui n'ont jamais travaillé, ça donne une idée de ce que c'est le taf à l'extérieur, le taf de cordiste, du coup à l'extérieur pour monter des gouttières en haut des bâtiments extrêmement hauts, de décaper des silos à betteraves qui tournent encore malgré l'interdiction de faire tourner les broyeurs qui sont en dessous, etc. ou l'arrivée des betteraves, ce qui a coûté la vie à un cordiste en 2017, dont le procès était apparemment exemplaire d'ignominie. On en parle aussi dans ce bouquin de la mort de Quentin en 2017. Ou ça peut être aussi d'aller gratter la calamine dans les cheminées qui fonctionnent encore, donc à des températures horribles. Bref, donc ça donne des idées, quoi. Je lis le début de ce bouquin. Là où tout a commencé. 7 janvier 2014. J'arrive ce matin pour mon Xème inscription à Pôle emploi. Dans les mains, mon antique pochette cartonnée renfermant les précieux justificatifs. Autant de preuves, puisqu'il en faut, de mon assiduité au travail. Le chômeur ne bénéficie pas de la présomption d'honnêteté. Je m'annonce à l'accueil. Veuillez vous asseoir et patienter. Les sièges autour de moi se remplissent. Il n'a pas l'air pressé, mon nouveau conseiller. L'heure de mon rendez-vous est passée et toujours pas de signe de vie. Alentour, les commentaires vont bon train. Les autres qui sont arrivés après moi, à quelle heure vont-ils passer? Un homme s'approche. Cheveux mi-longs rejetés en arrière, barbe fournie, regard noir. La chemise tombant par-dessus le jean. La cinquantaine bien vivante. Je l'ai vu tout à l'heure, pensant que c'était un personnel technique, un prestataire venu réparer la chaudière ou vérifier le système d'alarme. En tout cas, il n'est pas à l'image du conseiller que je me suis habitué à rencontrer jusqu'à maintenant. Bonjour, ceux qui avaient rendez-vous à 9h, vous me suivez? Comme une seule, environ 15 personnes se lèvent. Nos étonnements sont réciproques. On suit le gars. On s'assoit de nouveau autour d'une grande table dans une salle de réunion flambant neuve. Le bonhomme démarre sur les chapeaux de roue. Il parle vite. Pour les inscriptions, je reçois pas individuellement. Pas envie de répéter 15 fois la même chose. Surtout qu'à la fin de la journée, avec la fatigue, j'oublie des trucs. Et c'est vous qui êtes lésés. Mais s'il y en a qui veulent me voir après, pas de problème, je suis dispo. Il enchaîne. Propose de passer vite fait sur nos devoirs. Comme on n'est pas des novices, il subodore qu'on doit les connaître, nos devoirs, depuis le temps qu'on nous stigmatise avec. En vrac, Laurent déballe. Il a connu le chômage, après avoir exercé divers boulots. Un frère d'armes. Il nous décrit la machine Pôle emploi, plus apte à ruiner les destins qu'à trouver du boulot. Et pour cause, du boulot, il n'y en a pas. Surtout dans le secteur. Il est payé pour le savoir, alors il nous le fait savoir. Avec lui, pas de suivi mensuel. Faire déplacer des gens qui habitent à 35 km, c'est mon cas, pour leur dire qu'il n'y a que dalle, c'est pas son truc. À un moment, je doute. J'attends le piège. Mon regard scrute la pièce à la recherche de caméras. Laurent continue. Je vous laisse vous gérer, pas de convoque avec menace de radiation. J'ai jamais radié personne. D'ailleurs, toutes les radiations effectuées par Pôle emploi sont illégales. On est censé vous envoyer un recommandé pour ça. Mais ça coûterait trop cher. Vous êtes des adultes. En cas de besoin, je recevrai ceux qui le souhaitent autant de fois que nécessaire. Pour des questions concernant la formation, les métiers. Bon. Concernant l'indemnisation, je suis une brêle. J'ai jamais accepté de faire la formation. C'est pas mon boulot. Fallait pas fusionner la CEDIC et la NPE. Ce sont pas les mêmes métiers. Je suis là pour placer des gens, les orienter. Si vous avez des questions sur l'indemnisation, je vous dirigerai vers une personne compétente. Puis vient l'énumération de nos droits. Il y en a plus qu'on ne pensait. Les jours d'absence autorisés, 35 par an. D'ailleurs, pour zapper une convoque, il suffit de poser un de ces jours de congé, en passant. Les remboursements de trajet pour se rendre aux entretiens d'embauche. J'en oublie. Il nous conseille de ne pas céder à l'élargissement des critères de recherche, que ce soit pour la distance kilométrique, le salaire ou le métier recherché. En jeu, il y a les trois offres raisonnables d'emploi, dont la dernière ne pourrait être refusée sous peine de radiation. Alors si on ne veut pas se retrouver à 100 bornes de chez soi à faire un boulot qui n'est pas le sien pour un salaire de misère, faut rester ferme.
Il nous annonce l'avènement des brigades de contrôle, formées par des volontaires à l'âme de flics, promptes à fondre sur les chômeurs suspects. En point d'orgue de la matinée, il procède à la présentation du site internet Recours Radiation, sur l'écran du rétroprojecteur. Un site créé par Rosemary, une conseillère à la retraite, écœurée par ce qu'est devenu le système qu'elle a servi tant d'années. À la fin de ce one-man show ébouriffant, avant de quitter les lieux, je lui serre la main, vite fait. Il est accaparé par les chômeurs qui ont des requêtes. Moi, ce qui m'importe, c'est de toucher mes indemnités et qu'on m'emmerde pas. À l'aune du discours de Laurent, je vois s'ouvrir devant moi une voie royale d'un an et demi. En revanche, comme je tiens à lui faire part de ma gratitude, rentré à la maison, je lui adresse un mail. Monsieur Donnet, à la suite de l'entretien collectif de ce mardi, je tiens à vous adresser mes plus vifs remerciements et ma profonde reconnaissance. Vous faites preuve de salut public en rappelant à certains leurs droits fondamentaux, en redonnant à d'autres leur dignité. Pour ma part, si la plupart de vos paroles m'étaient déjà acquises, il m'a été agréable de sortir de ce jeu de rôle imbécile qui prévaut d'habitude à Pôle emploi. J'aurais presque envie d'y retourner. Merci également pour votre information concernant le site Recours Radiation. Comptez sur ma volonté farouche d'en faire une promotion aussi large que possible. Un mail auquel il ne manque pas de répondre. Monsieur Louis, permettez-moi à mon tour de vous remercier pour votre message. Ce genre d'échange est très rare, voire quasi inexistant, et me permet de me conforter dans ma posture d'agent public au service des usagers à qui l'on doit un service de qualité. Vous pouvez utiliser mon mail pro, car j'assume parfaitement ce que je défends et les actes qui en découlent, me permettant de défendre les usagers contre la machine Pôle emploi. Laurent, c'est devenu un pote, un compagnon de contestation, un complice d'actions militantes, contre Pôle emploi notamment. Avant la fin de ma période d'indemnisation, je lui confie mon projet de formation cordiste. Déposé dans les règles de l'art, la direction régionale se bornera à en refuser le financement. Laurent se démènera pour le faire aboutir in extremis. Sans son obstination farouche, probablement que tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans le métier de cordiste n'aurait pas eu lieu. Peut-être pas sous cette forme en tout cas. Les rouages de la machine Pôle emploi ont besoin d'hommes et de femmes pour les faire tourner correctement. Pas de potiches annonantes, petites sentinelles du rendez-vous de suivi mensuel, tout juste aptes à intervertir deux lignes dans ton CV, ou transformer une lettre de motif en torchon flagorneur mièvre convenu, mais tellement conforme au canon en vigueur chez les cadres recruteurs, cuistre formaté, cerbère du sanctuaire branlant consacré à l'emploi. J'ai recommencé à bosser 3 semaines après la fin de cette formation. Et peut-être que si Quentin n'était pas mort à quelques dizaines de mètres de moi, ce 21 juin 2017, j'exercerai encore ce métier. Un cas particulier ne constitue pas une généralité, je sais. Mais des milliers de cas particuliers forment une tendance. Malheureusement, je crains qu'il y ait trop peu de conseillers comme le mien, au sein de Pôle emploi. Et ensuite, dans les autres chapitres, il nous décrit un peu ce que c'est son taf. Voilà, un petit bouquin qui est sympa à lire.
Alors, c'est l'occasion de vous rappeler qu'on est carrément friand de propositions de votre part.
T'es pas allumé, je crois. Ah, pardon.
Et puisque cette radio est la vôtre aussi. Et voilà, sans les yeux qui nous envoient des petites propositions régulières, on va écouter une proposition qui s'appelle Chapelle Ardente.
Profiterait d'une tranche de Galice. On t'étonnerait un raffiné calice. On s'enduirait de couches de mélisse. On gommerait des petites pilules d'anis. On quêterait les effets du solstice. On s'enverrait un empire de délices. On fréquenterait le magicien d'Oz. On vibrerait dans la chair et l'os. On adopterait un corps de malice. On figurerait une surface de vis. On plongerait au fond des abysses. On concocterait la figure d'Anubis. On chanterait pas les louanges du fils. On s'appellerait pas l'apocalypse. On capitonnerait le volume du bruit. On aimerait une toile de Saïton plié. On marcherait sans paralysie. On retournerait en pays interdit. On n'enfilerait plus jamais d'habits. On tiendrait droit. voie de l'obscurantisme. On se débarrasserait de nos valises. On déchirait à la hâte les lisses. On irait au bout de nos idées fixes. On écouterait une corde de silice. On visionnerait encore le film Brasil. On se tiendrait loin de la police. On s'éloignerait des villes sublisses. On falsifierait tous les synopsis. On fuirait ceux qui nous définissent. On écraserait ceux qui nous identifièrent. On trierait ces masses d'immondices. On n'habiterait pas la ville de nuit. On relira un roman de Martin Amis. On se révèle à pour la Caravosse. On habiterait un petit plateau du sas. On simulerait une situation face à face. On s'étonnerait pas que personne plus. On résoudrait tant et tant de rébus. On surferait les hauts des récifs. On séduirait avidement tous les rétifs. On visiterait sans atlas toutes les îles. On déclinerait avec classe et style. On transposerait certains édifices. On peindrait des portraits nihilistes. On déguiserait précisément nos califes. On montrerait si le faux les canines. On émulsionnerait la grande cuisine. On avalerait plutôt de la vipérine. On rendrait soluble un carbone anthracite. On n'aurait plus une passion en déficit. On verrait clair au fond des cryptes. On boirait goulûment à l'alambic. On décalquerait des dessins en graphite. On remplirait des carnets de croquis. On cavalerait par les chemins obliques. On basculerait à vie dans la forêt épique. On dévorerait un rocher de pitance. On serait parti bien avant la sentence. On regarderait un tropique de face. On tracerait un cercle de semences. On ignorerait les grandes puissances. On imaginerait un code de défense. On polirait un verbe de faïence. On stimulerait une étendue de patience. Une chapelle ardente. Une chapelle haletante. Une chapelle attenante. Une chapelle al dente.
Voilà, merci sans les yeux. Un autre contenu qu'on nous a envoyé, c'est Marco depuis la Croix-Rousse, le plateau de la Croix-Rousse. Et c'est un texte que je m'en vais vous lire qui s'appelle Pangolin Candide contre Pangloss Avide. C'est la faute à Voltaire, petit astérix. David cherche Goliath, Don Quichotte cherche Moulin, Souris cherche Lion. Aux optimistes béats et autres nigauds invétérés, le petit libraire éplorait de lâcher. Ah, ma zone de confort drastiquement se restreint. Mon activité s'effiloche comme peau de chagrin. Considérations intempestives sur quelques empaffés au pouvoir, de nuisances caractérisées, et sur la dialectique du petit et du gros. Rouvrir les librairies en plein coronavirus pour lutter contre Amazon. Non mais qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre ? Non mais écoutez-les, ces beaux parleurs appointés de la chose culturelle. À commencer par le ministre de l'économie et par la plupart des animateurs médiatiques, qui se mettent une fois, n'est pas coutume, à pérorer sur leur passion des livres et des librairies, qu'ils n'ont jamais autant aimées que petites et indépendantes. Comme s'il existait une preuve irréfutable, un lien établi entre la petitesse et l'excellence. Médicalement, cette réouverture serait une belle connerie, sans doute la meilleure façon de se débarrasser des derniers petit libraire et de tous ces férus, pour ne pas dire fous, qui s'adonnent à l'activité ô combien dangereuse appelée lecture. Parce que les livres, mesdames, messieurs, les blablateurs bontins, sont par définition des objets explosifs et des migrants notoires. Ces parallépipèdes de papier imprimé n'attendent qu'une chose. Être pris en main, tourné, retourné, feuilleté, touché, corné, plié jusqu'au tréfonds de leur reliure. À défaut d'être lu, voire annoté jusqu'en leur dernière page, puis rangé dans des bibliothèques, lesquelles sont avant tout des usines à faire des étincelles, où les livres, en se frottant, peuvent libérer des continents d'imaginaire, les livres passent de main en main, de l'éditeur au diffuseur, du diffuseur au libraire, du libraire au lecteur, puis de lecteur en lecteur, un peu comme des travailleurs, travailleuses du sexe. Véritables agents de voyage, ils portent sur leur couverture les empreintes d'une foultitude de curieux et entre leurs pages, comme d'autres entre leurs cuisses, tous les parasites du monde, sans parler des éventuelles idées subversives qui peuvent modifier irréversiblement votre façon de voir le monde. Raisonnablement, la crise sanitaire aura tôt fait, par obligation, idéologie, hygiénique, de convertir les éditeurs et les lecteurs au tout numérique. Nonobstant l'avantage économique du livre sur demande. Pas de gaspillage, forêt tranquille, contrôle du lectorat, etc. Le livre électronique s'imposera une fois pour toutes, sur fond de gigantesques autodafés épuratifs. Mais je vais vite en anticipation et en degré Fahrenheit. La vérité, c'est que la chose des lettres, et partant de la librairie à fortiori physique, est devenue une goutte d'eau dans un marché de l'information qui dégueule d'algorithmes et d'émoticônes. La pensée est désormais affaire de raison économique. Et à ces dirigeants, qui se montent encore le col avec leurs belles lettres et feignent d'ignorer la réalité anthropologique de la catastrophe capitaliste, idiocratie pour tous, je rappellerai que le premier qui vit la passion des livres, c'est le petit libraire. Et qu'il a beau se démener, le petit libraire, pour créer et supporter des événements censés et censés susciter des lecteurs, voire de la pensée, c'est dur, bordel, de survivre, suivre cette immonde, comme ça se prononce, décérébrée et vidée de sens. Si vous voulez vraiment réactiver du sens, ayez une once de courage au-delà de la parade médiatico-politique. Allez-y à fond, usez de vos pouvoirs. Taxez, imposez les mastodontes et de l'e-commerce et du big data. Obligez les banquiers et puis providencez, redistribuez, reversez en ruisselant vers les petits qui attendent que vos belles professions de foi d'érudit se matérialisent et fassent bling-bling dans leurs petites poches. Mais à bien regarder le passé proche, le petit libraire a raisonnablement quelques doutes. Et si les gros traverseront la tempête, too big to fall, il est fort possible que les petits crèvent la gueule ouverte. La finesse n'est plus de mise et le petit libraire n'a plus qu'à s'enluminer au comptoir. Ah, merde, c'est fermé.
Bravo, c'est tout beau.
Merci, Marco. On va écouter un petit jingle.
Carré. Et qui n'a rien d'étrange.
Il ne veut pas y aller, je ne sais pas ce qui lui passe.
Bon, on va ménager lampadaire, canapé.
Il y avait le message du gouvernement, là. Il y avait le message du gouvernement à passer, c'était pas mal.
C'est une cour carré.
Le message du gouvernement. Bah, c'est pas grave, on passe
au
truc d'après.
D'accord.
C'est une cour carrée et qui n'a rien d'étrange. Sur les flancs, l'écurie et l'étable, au toit bas. Ici près, la maison, là-bas au fond, la grange, sous son chapeau de chaume et sa jupe en plâtras. Le bac où les chevaux au retour viendront boire dans sa berge de bois est immobile et d'or. Tout plaqué de soleil, le purin à l'eau noire, lui, le long du fumier gras et pailleté d'or. Loin de l'endroit humide où gît la couche grasse, au milieu de la cour, où le crottin plus sec, riche de grains d'avoine en poussière, s'entasse, la poule l'éparpille à coups d'ongles et de bec. Plus haut, entre les deux brancards d'une charrette, un gros coq, satisfait, gavé d'aise, assoupi, hérissé, l'œil mi-clos recouvert par la crête, ainsi qu'une couveuse en boule est accroupie. Des canards hébétés voguent l'œil en extase, on dirait des rêveurs. Quand soudain, s'arrêtant pour chercher leur pâture au plus vert de la vase, ils crèvent d'un plongeon les moires de l'étang. Sur le faîte du toit dont les grises ardoises montrent dans le soleil leurs écailles d'argent, des pigeons violets, aux reflets de turquoise, de roucoulements sourds gonflent leur col changeant. Leur ventre, bien lustré, dont la plume est plus sombre, fait tantôt de l'ébène et tantôt de l'émail. Et leurs pattes, qui sont rouges parmi cette ombre, semblent, sur du velours, des branches de corail. Au bout du clos, bien loin, où vont paître les oies, et vaguer les dindons noirs comme des huissiers. Oh, qui pourra chanter vos bonheurs, vos joies, rentiers, faiseurs de lard, philistins, épiciers. Oh, vie heureuse des bourgeois, qu'avril bourgeonne ou que décembre gèle, ils sont fiers et contents. Ce pigeon est aimé 3 jours par sa pigeonne. Ça lui suffit, il sait que l'amour n'a qu'un temps. Ce dindon a toujours béni sa destinée. Et quand vient le moment de mourir, il faut voir cette genoie en pleurs. C'est là que je suis né. Je meurs près de ma mère et j'ai fait mon devoir. Son devoir, c'est-à-dire, elle blâmait les choses inutiles, car elle était d'esprit zélé. Et quand des papillons s'attardaient sur des roses, elle cassait la fleur et mangeait les trêlés. Elle a fait son devoir, c'est-à-dire que honque, elle n'eut de souhait impossible, elle n'eut aucun rêve de lune, aucun désir de jonque, l'emportant sans rameur sur un fleuve inconnu. Elle ne sentit pas lui courir sous la plume de ces grands souffles fous qu'on a dans le sommeil pour aller voir la nuit, comment le ciel s'allume et mourir au matin sur le cœur du soleil. Et tous sont ainsi faits, vivre la même vie, toujours pour ces gens-là, cela n'est point hideux. Ce canard n'a qu'un bec et n'eut jamais envie, ou de n'en plus avoir, ou bien d'en avoir deux. Aussi comme leur vie est douce, bonne et grasse, qu'ils sont patriarcaux, béats, vermillonnés, 5%, quel bonheur de dormir dans la crasse, de ne pas voir plus loin que le bout de son nez, n'avoir aucun besoin de baiser sur les lèvres, et loin des songes vains, loin des soucis cuisants, posséder pour tout cœur
un viscère sans fièvre, un coucou régulier et garanti, disant « Oh, les gens bienheureux !» Tout à coup, dans l'espace, si haut qu'il semble aller, lentement, d'un grand vol, en forme de triangle, arrive, plane et passe. Où vont-ils? Qui sont-ils? Comme ils sont loin du sol, les pigeons, le bec droit, poussent un cri de flûte qui brise les soupirs de leur col redressé et saute dans le vide avec une culbute. Les dindons d'une voix tremblotante ont gloussé. Les poules picorant ont relevé la tête, le coq droit sur l'ergot, les deux ailes pendant, clignant de l'œil en l'air et secouant la crête. Vers les hauts pèlerins pousse un appel strident. Qu'est-ce que vous avez, bourgeois, soyez donc calmes. Pourquoi les appeler, sauf ils n'entendront pas. Et d'ailleurs, eux qui vont vers le pays des palmes, crois-tu que ton fumier est pour eux des appâts? Regardez-les passer, eux ce sont les sauvages. Ils vont où leur désir le veut, par-dessus mont et bois et mer et vent. Et loin des esclavages, l'air qu'ils boivent ferait éclater vos poumons. Regardez-les avant d'atteindre la chimère, plus d'un l'aile rompue et du sang plein les yeux mourra. Ces pauvres gens ont aussi femme et mère, et savent les aimer aussi bien que vous mieux. Pour choyer cette femme et nourrir cette mère, ils pouvaient devenir volailles comme vous. Mais ils sont avant tout des fils de la chimère, des assoiffés d'azur, des poètes, des fous. Ils sont maigres, meurtris, là, harassés, qu'importe. Là-haut chante pour eux un mystère profond à l'haleine du vent. Inconnus qui les portent, ils ont ouvert sans peur leurs deux ailes, ils vont. La bise contre leur poitrail siffle avec rage, l'averse les inonde et pèse sur leur dos. Eux dévorent l'abîme et chevauchent l'orage. Ils vont loin de la terre, au-dessus des badauds. Ils vont par l'étendue ample, roi de l'espace. Là-bas, ils trouveront de l'amour, du nouveau. Là-bas, un bon soleil chauffera leur carcasse et fera se gonfler leur cœur et leur cerveau. Là-bas, c'est le pays de l'étrange et du rêve. C'est l'horizon perdu par-delà les sommets. C'est le bleu paradis, c'est la lointaine grève où votre espoir banal n'abordera jamais. Regardez les vieux coqs, genoux édifiantes. Rien de vous ne pourra monter aussi haut qu'eux. Et le peu qui viendra d'eux à vous, c'est leur fiante. Les bourgeois sont troublés de voir passer les gueux.
C'était Raymond Gary qui chantait un poème de Jean Richepin et non pas de Georges Brassens, comme peut-être que vous avez cru reconnaître. Donc c'est la version de Brassens que la plupart des gens connaissent, c'est une version réduite de ce texte, et sachant que c'est la musique, je crois, qui est bien de Brassens en l'occurrence. Et donc ce poème, elle date de 1876 et il a valu à son auteur un procès pour outrage aux bonnes mœurs et un mois de prison. Voilà. Et pour continuer sur la thématique de Fahrenheit 9/11, je vais essayer de vous lire un extrait dans le livre. C'est un classique. On va voir si vous allez le reconnaître immédiatement. Silence, silence, murmura un haut-parleur tandis qu'il sortait de l'ascenseur du 14e étage. Et silence, silence, répétèrent infatigablement les pavillons des instruments, à intervalles réguliers, le long de chaque couloir. Les étudiants, et jusque le directeur lui-même, se haussèrent automatiquement sur la pointe des pieds. Ils étaient des alphas, bien entendu. Mais les alphas eux-mêmes ont été bien conditionnés. Silence, silence. Toute l'atmosphère du 14e étage vibrait d'impératifs catégoriques. 50 mètres de parcours sur la pointe des pieds les amenèrent à une porte que le directeur ouvrit avec précaution. Ils franchirent le seuil et pénétrèrent dans la pénombre d'un dortoir au volet clos. 80 petits lits s'alignaient le long du mur. Il y avait un bruit de respiration légère et régulière. et un murmure continu, comme de voix très basses chuchotant au loin. Une infirmière se leva, comme elles entrèrent, et se mit au garde-à-vous devant le directeur. « Quelle est la leçon cet après-midi » demanda-t-il. « Nous avons fait du sexe élémentaire pendant les 40 premières minutes, » répondit-elle. « Mais maintenant, on a réglé l'appareil sur le cours élémentaire de sentiments des classes sociales. » Le directeur parcourut lentement la longue file des petits lits. Rose est détendue par le sommeil. 80 petits garçons et petites filles étaient étendus, respirant doucement. Il sortait un chuchotement de sous chaque oreiller. Le directeur s'arrêta et, se penchant sur l'un des petits lits, écouta attentivement. « Cours élémentaire du sentiment des classes sociales, disiez-vous. Faites-le répéter un peu plus haut par le pavillon. » À l'extrémité de la pièce, un haut-parleur faisait saillie sur le mur. Le directeur s'y rendit et appuya sur un interrupteur. « Sont tous vêtus de vert, » disait une voix douce mais fort distincte, commençant au milieu d'une phrase. « Et les enfants de Delta sont vêtus de kaki. Oh non, je ne veux pas jouer avec les enfants de Delta. Et les Epsilon sont encore pires. Ils sont trop bêtes pour savoir lire ou écrire. Et puis, ils sont vêtus de noir, qui est une couleur ignoble. Comme je suis contente d'être un bêta. » Il y eut une pause, puis la voix reprit. Les enfants alpha sont vêtus de gris. Ils travaillent beaucoup plus dur que nous, parce qu'ils sont si formidablement intelligents. Vraiment, je suis joliment contente d'être un bêta, parce que je ne travaille pas si dur. Et puis, nous sommes bien supérieurs aux gammas et aux deltas. Les gammas sont bêtes. Ils sont tous vêtus de vert, et les enfants delta sont vêtus de kaki. Oh non, je ne veux pas jouer avec les enfants delta. Et les Epsilon sont encore pires. Ils sont trop bêtes pour savoir. Le directeur remit l'interrupteur dans sa position primitive. La voix se tut. Ce fut plus que son grêle fantôme qui continua à marmotter dessous les 80 oreillers. Ils entendront cela répéter encore 40 ou 50 fois avant de se réveiller. Puis de nouveau, jeudi et samedi, de même. 120 fois, 3 fois par semaine, pendant 30 mois. Après quoi, elles passeront une leçon plus avancée. Des roses et des secousses électriques, le kaki delta et une bouffée d'assa fétida, liés indissolublement avant que l'enfant sache parler. Mais le conditionnement que les paroles n'accompagnent pas est grossier, et tout d'une pièce. Il est incapable de faire saisir les distinctions plus fines, d'inculquer les modes de conduite plus complexes. Pour cela, il faut des paroles, mais des paroles sans raison. En un mot, l'hypnopédie. La plus grande force moralisatrice et socialisatrice de tous les temps. Les étudiants inscrivirent cela dans leur calepin. Le savoir puisé directement à la source. De nouveau, le directeur toucha l'interrupteur. « Si formidablement intelligent, » disait la voix douce, insinuante, infatigable. « Vraiment, je suis contente d'être un bêta, parce que... » Non, pas tout à fait comme des gouttes d'eau, bien que l'eau, en vérité, soit capable de creuser à la longue des trous dans le granit le plus dur. Mais plutôt comme des gouttes de cire à cacheter liquide, des gouttes qui adhèrent, s'incrustent, s'incorporent à ce sur quoi elles tombent, jusqu'à ce qu'enfin le roc ne soit plus qu'une seule masse écarlate. Jusqu'à qu'enfin l'esprit de l'enfant, ce soit ces choses suggérées, et que la sonde de ces choses suggérées, ce soit l'esprit de l'enfant. Et non pas seulement l'esprit de l'enfant, mais également l'esprit de l'adulte, pour toute sa vie. L'esprit qui juge et désire et décide, constitué par ces choses suggérées. Mais toutes ces choses suggérées, ce sont celles que nous suggérons, nous. Le directeur en vint presque à crier dans son triomphe. Que suggère l'État ? Voilà, donc c'était en l'occurrence un extrait du « Meilleur des mondes » d'Aldous Huxley. Donc un bouquin qui a été écrit en 1931. Et donc ce passage parle d'hypnopédie, qui est une technique de conditionnement social.